play as time goes by.
Bienvenue dans l'histoire qui raconte notre histoire.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons.
On reste à peu près au même niveau sur l'échelle du dégueu.
C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère.
Brisons nos codes, brisons nos idées reçues.
Vers l'infini.
Compteur d'ondes.
À travers le temps et l'espace, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Des Mesures vous propose de plonger dans la complexité des échelles.
Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, Éléonore s'invite dans l'intimité des chromosomes.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau voyage à travers les échelles. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des phénomènes qui se passent au cœur des noyaux de nos cellules et touchent à ce qui nous rend unique, notre matériel génétique. Pour cela, montons dans notre machine à remonter les échelles et hop, c'est parti. Nous allons commencer en évoquant un dysfonctionnement génétique dont vous avez probablement entendu parler, les trisomies, comme la trisomie 21 par exemple, aussi appelée syndrome de Down. Nous possédons tous, dans chacune des cellules de notre corps, 22 paires de chromosomes plus une paire de chromosomes dits sexuels, ainsi appelés car ils déterminent le sexe biologique d'un individu, XX pour une femme et XY pour un homme. Ces chromosomes sont le lieu de stockage de notre matériel génétique. Les individus trisomiques 21, au lieu de posséder une paire, c'est-à-dire deux chromosomes de la paire numéro 21, en possèdent trois. Ça paraît presque anodin dit comme ça, et pourtant, cela a d'importantes conséquences dans leur organisme. Les trisomiques 21 ont une prédisposition aux malformations cardiaques, aux otites, et les hommes atteints de ce syndrome sont souvent stériles. Parfois, on peut également observer des retards mentaux. Cet exemple nous montre que si l'on a trop de matériel génétique dans nos cellules, il en résulte des désordres physiques et physiologiques pour l'ensemble de notre organisme. Afin de comprendre ce qu'il se passe, nous allons à présent regarder d'un peu plus près la molécule de base de la vie, la carte d'identité de chaque être vivant, l'ADN. L'ADN, de son nom complet et barbare acide désoxyribonucléique, est un long brin composé d'une succession de quatre lettres appelées bases, A, T, C et G. C'est l'ordre dans lequel ces lettres s'organisent qui est unique et propre à chaque individu, des bactéries jusqu'aux plantes. Une autre caractéristique est que ces lettres sont complémentaires deux à deux. Le A et le T s'attirent, un peu comme le ferait un aimant avec la porte de votre frigo, et le C fait de même avec le G. Ce rapprochement a lieu sur toute la surface des deux brins d'ADN complémentaires, et c'est ce que l'on appelle la double hélice de l'ADN. Il vous faudrait un gros zoom si vous voulez la voir, car le rayon de cette double hélice est environ 100 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un de vos cheveux. Heureusement que les microscopes sont là. Une seule molécule d'ADN, si nous la déroulions, mesurerait environ 5 cm, ce qui est 10 000 fois plus grand que le diamètre de la cellule qui la contient. La molécule d'ADN est en effet extrêmement compactée, et ce sont ces structures compactes que l'on appelle les chromosomes. Un chromosome contient ainsi une molécule d'ADN linéaire, enroulée très finement sur elle-même. La succession des lettres A, T, C et G n'a parfois aucun sens. Il arrive également que les lettres forment un mot, c'est ce que l'on appelle un gène. Un gène est donc une portion d'ADN située sur un chromosome et qui a une signification pour la cellule. Comme nous l'avons vu plus tôt, nos cellules possèdent 22 paires de chromosomes plus une paire de chromosomes sexuels. Dans une paire de chromosomes, l'un des chromosomes vient du père, l'autre de la mère. Nous portons donc deux copies de chaque gène provenant de chacun de nos deux parents biologiques. C'est ce que l'on appelle des allèles. Ce sont deux variants possibles d'un même gène. Par exemple, il existe trois allèles possibles du gène codant pour le groupe sanguin, A, B et O. Et on possède chacun deux de ces trois allèles, l'un venant du père, l'autre de la mère, et chacun étant sur l'un de nos deux chromosomes de la paire numéro 9. Nous avons donc vu que l'ADN, constitué de quatre bases ou lettres, peut former des gènes ou mots dont il peut exister des variations, les allèles. Tout ça est bien beau, me direz-vous, mais vous n'êtes pas plus avancé pour savoir comment de petites différences sur l'ADN peuvent avoir de si grandes conséquences sur un individu. J'y arrive. Les gènes, ce sont un peu comme le plan de fabrication de tout ce dont la cellule a besoin pour exister. En effet, une cellule se nourrit, se protège des agressions extérieures, communique avec ses voisines, se déplace, etc. Toutes ces fonctions sont remplies par des macromolécules appelées protéines et composées d'acides aminés. Une fois encore, c'est l'ordre précis d'agencement des acides aminés qui va définir la fonction de la protéine. Si un acide aminé est placé au mauvais endroit, il se peut que la protéine ne puisse plus jouer son rôle, comme par exemple permettre à la cellule de se défendre contre un virus. Mais cet ordre d'agencement, d'où vient-il ? Eh bien justement, il provient de l'information contenue dans le gène codant pour cette protéine. Le problème, c'est que cette information est sous forme d'ADN, c'est-à-dire dans une langue différente de celle des acides aminés, que la cellule ne comprend pas directement. Un intermédiaire, une sorte d'interprète, va être fabriqué à partir de la séquence des lettres A, T, C et G, composant le gène, dans une langue compréhensible. Cet interprète, c'est l'ARN, pour acide ribonucléique. L'interprète ARN, que la cellule est capable de décoder et de comprendre, va à son tour être traduit en séquence d'acides aminés de la future protéine. Pour résumer, le plan de fabrication des composants de la cellule, les protéines, est caché dans l'ADN et dans les gènes, et c'est l'ARN qui va décoder ce message et ainsi permettre la synthèse des protéines. As a child with ocean eyes, I smiled at a world existing just for me. Without boxes, borders, or boundaries, I built dreams. But like plastic building blocks, they were knocked down to the ground. I grew up to a world of compromise, analyzing what it means to dream. I don't really wanna understand everything in my world, it spoils the fun for me. Come on, darling, you can take my hand. Blowing kisses in the wind will fly away in our dreams from the boxes. Revenons maintenant à nos cellules de personnes trisomiques 21. Dans chacune d'elles est présent le génome complet plus un chromosome 21. Au lieu d'avoir deux copies d'un même gène, ces cellules en possèdent donc trois pour tous ceux contenus sur le chromosome 21. Or, il existe ce qu'on appelle l'effet de dose des gènes. Le nombre de copies d'un même gène dans une cellule va directement conditionner la quantité de la protéine qui va être synthétisée à partir de ce gène. Et même si on est incapable de voir à l'œil nu ce qu'il se passe au cœur de nos cellules, même si c'est tout petit, il faut comprendre que c'est très finement régulé. Le moindre bouleversement peut avoir de terribles conséquences. Pour illustrer ce phénomène, une équipe de chercheurs a cultivé en laboratoire des cellules de maïs. Dans son génome, le maïs possède 10 paires de chromosomes. Ces chercheurs ont introduit un chromosome supplémentaire dans les cellules, un peu comme dans la trisomie 21, et ils se sont aperçus que ces cellules ne survivent pas. Ensuite, plutôt que d'ajouter un seul chromosome, ils ont décidé d'ajouter un génome entier, c'est-à-dire une seconde paire de chaque chromosome. Les cellules, au lieu de posséder 10 paires de chromosomes, en possèdent maintenant 20. Eh bien, ces cellules ont survécu, et même très bien. C'est donc moins embêtant pour une cellule d'avoir tout son matériel génétique en double, plutôt que juste une portion. Comme nous l'avons vu juste avant, si tout est en double, la proportion des protéines est respectée. Alors que si seul un chromosome est en double, certaines protéines seront beaucoup plus abondantes que d'autres. On peut ainsi comprendre les troubles observés chez des personnes possédant un chromosome supplémentaire. Il faut tout de même savoir qu'actuellement, les scientifiques et les médecins ne connaissent pas les gènes du chromosome 21 qui, avec une copie supplémentaire, sont impliqués dans ces troubles. Chez l'homme, seules les trisomies des chromosomes non sexuels 21, 18, 13 et 8 sont viables. Or, ce sont les plus petits chromosomes humains. Les embryons affectés par une trisomie sur les autres chromosomes, plus longs et comportant plus de gènes, ne sont pas viables, provoquant ainsi une fausse couche. Après vous avoir raconté tout cela, il y a un petit détail qui me turlupine. En effet, si avoir un chromosome et un seul en plus dans son génome peut avoir de telles conséquences, alors il y a tout de même la moitié de la population humaine qui devrait avoir un problème. Souvenez-vous de la paire de chromosomes sexuels chez l'homme avec un grand H. C'est XX pour la femme et XY pour l'homme. La femme a donc un chromosome X de plus que l'homme, et l'homme un chromosome Y de plus que la femme. Alors on pourrait faire l'hypothèse que les gènes sont les mêmes sur les deux chromosomes, excepté ceux qui codent pour les caractères sexuels. Sauf que non, pas du tout. Le chromosome Y est tout petit et contient peu de gènes comparé au chromosome X. On dit qu'il est dégénéré. Ce n'est pas du tout pour vous rabaisser, messieurs, c'est un terme scientifique très sérieux pour expliquer que le chromosome Y, portant il y a plusieurs millions d'années autant de gènes que X, s'est progressivement, au cours du temps, rapetissé et a perdu 90% de ses gènes. Alors maintenant, vous me croyez ? On est bel et bien en face d'une contradiction. Les filles portent toutes deux copies des gènes du chromosome X dans leurs cellules, alors que les garçons n'en ont qu'une. Et pourtant, nous n'avons pas de problème de santé particulier que je sache. Et même, il existe une trisomie du chromosome X appelée triple X. Les femmes porteuses de ces trois chromosomes X peuvent être un peu plus grandes que la moyenne et commencent à marcher plus tard pendant l'enfance. Mais à part ça, pas de désordre physique ou physiologique particulier. Il arrive même que cette anomalie chromosomique passe totalement inaperçue. C'est tout de même fort. Alors, c'est quoi ce secret du chromosome X ? Son secret, c'est ce que l'on appelle la compensation de la dose, et c'est passionnant. Chez les mammifères, elle passe par l'inactivation du chromosome X. Tout se passe après la fécondation, lorsque le futur bébé-fille est encore un tout petit embryon composé d'une centaine de cellules. On ne comprend pas encore toutes les étapes en jeu, mais on en connaît au moins une. Sur les deux chromosomes X se situe un gène, appelé XIST. Au hasard, sur l'un de ces deux chromosomes X, l'ADN XIST va être décodé en ARN. Souvenez-vous, c'est notre interprète tout à l'heure. Mais cet ARN ne va pas conduire à la synthèse d'une protéine. Non, il va aller tapisser le chromosome X dont il est issu, sur toute sa longueur, et y rester accroché. Il va ainsi former une espèce de carapace empêchant l'accès aux autres gènes présents sur le chromosome X. Ce chromosome ne donnera donc aucun autre ARN et aucune protéine. Les cellules de cet embryon vont ensuite se diviser jusqu'à former un individu complètement formé. On peut observer ce chromosome inactivé au microscope dans toutes les cellules du corps d'une fille sous la forme d'une petite boule accolée à la paroi du noyau. C'est le corpuscule de Barr, du nom du chercheur qui l'a découvert en 1948. Ce qui est vraiment cool, c'est que cette inactivation touche aléatoirement l'un ou l'autre des deux chromosomes X. Dans certaines cellules, ce sera le chromosome X venant du père qui sera inactivé, dans les autres, ce sera celui de la mère. On peut facilement observer ce phénomène sur le pelage du chat dit « écaille de tortue ». Ce sont les femelles tachetées de noir et de roux. En effet, chez le chat, les couleurs du pelage noir et roux sont codées par deux allèles d'un même gène, situés sur le chromosome X. Il existe un allèle poil noir et un allèle poil roux. Les chattes écailles de tortue possèdent les deux allèles, l'un sur chacun de leurs deux chromosomes X. Dans l'embryon d'une future petite chatte, une cellule mère dans laquelle le chromosome X portant l'allèle poil noir aura été inactivé va se diviser et les cellules filles issues de cette cellule mère donneront du pelage roux. Et inversement. Voilà pourquoi on peut observer des taches de couleurs bien distinctes chez les femelles. Les chats mâles, eux, auront hérité soit d'un chromosome X portant l'allèle poil noir, soit un chromosome X poil roux. Comme ce chromosome X est seul, il sera activé dans toutes les cellules du chat, le pelage sera donc uniforme. Grâce à ce mécanisme conservé au cours de l'évolution, les gènes en surplus sont donc éteints, permettant ainsi un développement comparable entre les individus biologiquement mâles et femelles. Ce sont donc les quelques gènes présents sur le chromosome Y qui aboutiront à des caractères sexuels mâles, et leur absence qui aboutira à l'expression des caractères sexuels femelles. En 2012, une équipe américano-canadienne a voulu savoir s'il serait possible d'inactiver le chromosome en trop dans les cas de trisomie 21. Ils ont utilisé des cellules humaines dans lesquelles il y avait 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Ils ont ensuite procédé à quelques manipulations génétiques afin d'ajouter un gène XIST à l'un de ces 3 chromosomes 21. Ils ont observé dans les cellules que ce troisième chromosome était inactivé par l'ARN de XIST, exactement comme l'est le chromosome X chez la femme. C'est incroyable! Et même si rien n'est encore gagné et qu'il y a encore beaucoup de travail, cette expérience ouvre la voie à de possibles futures stratégies thérapeutiques pour les personnes souffrant de trisomie. Ce court voyage au milieu de nos chromosomes est maintenant fini. J'espère que j'ai réussi à vous faire partager mon émerveillement face à ces phénomènes surprenants qui se déroulent juste sous nos yeux et même à l'intérieur de nous.
C'était Compteur d'ondes. Réagissez sur Facebook et Twitter.
Retrouvez-nous et nos chroniques sur transistor.fr et notre site web desmesures.jimdo.com. Merci de votre écoute et à bientôt.
Compteur d'ondes.